Benjamin Bayard, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la géopolitique des datas? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que le gouvernement français fait le nécessaire pour que les datas françaises ou européennes restent souveraines et ne soient pas exfiltrées dans des sociétés qui sont le bras armé du gouvernement américain ou, entre autres, d'autres gouvernements?
Alors, le problème, c'est que si tu attaques par ça, il faut que je commence par le long tunnel où j'explique.
Et bien, ça tombe bien, on a pris des pelles aujourd'hui.
Et donc, on va creuser un petit tunnel. En fait, le fond de ta question, il y a deux morceaux. Il y a un morceau qui est purement géopolitique, économique, et qu'on peut traiter sans rien de particulier, en considérant que la data, c'est comme du pétrole. Et puis, si on veut comprendre un peu plus finement ce qui se passe en Europe, il faut comprendre la question des données personnelles. Et en fait, la question des données personnelles, c'est pas intuitif, parce que contrairement au business, enfin, contrairement au pétrole, c'est pas du business, c'est autre chose. Et donc, il faut expliquer. Alors, tu vas voir, il y a trois grands morceaux qu'il faut raconter.
Raconte-le comme si tu expliquais à Marc.
Alors, bah non, je te l'explique à toi, toi qui poses les questions, Marc, il sait déjà.
Moi,
Donc.
je sais pas, c'est ça?
Maintenant, toi, tu sais pas. Donc, le premier morceau qu'il faut avoir en tête, ça se résume en un slogan qui est l'ordinateur est fatal. Et ça, c'est un truc qui n'est pas intuitif. Ça peut se raconter avec quelques petits exemples. 1970, tu as des démarches à faire auprès de l'administration. Comment ça se passe? Ben, tu vas dans les locaux de l'administration, tu prends un joli formulaire en papier qu'on appelle un CERFA, et puis tu remplis dans les cases en cochant tout bien. Et puis, bah, donc, tu décris ton cas, nom, prénom, adresse, ta 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 ta. Et puis, à un moment, il faut que tu décrives ta situation. Il y a deux cases prévues qui sont bleues et rouges. Or, toi, manifestement, t'es vert. Ton cas, à toi, c'est vert. Ça saute aux yeux, on ne peut pas le rater. Sauf être daltonien, mais on voit bien que toi, ton cas, c'est vert. Tu peux rien faire face à ton formulaire. Du coup, tu prends ton formulaire où tu as rempli tout ce que tu pouvais. Et puis tu vas au guichet, et puis il y a une personne au guichet, humaine, pas plus bête qu'une autre, qui voit bien que toi, manifestement, ton cas, c'est vert, et cette personne va s'en débrouiller. Elle va adjoindre une note au dossier, mettre un post-it, agrafer un truc, laisser un papier pour son collègue qui traitera dans les bureaux plus tard pour expliquer que ça rentre pas, quoi. Que comme dans le Père Noël est une ordure, ça dépend, ça dépasse. Ça, c'est 1970. Tu regardes le même cas en 2020. Eh ben, tu fais un peu de recherche. Au bout de 2, 3 minutes de recherche, tu trouves où est le formulaire en ligne de l'administration. Tu remplis tout le zinzin. Et puis, ben, on te propose pareil, bleu et rouge. Or, toi, t'es vert. Vu que t'es toujours vert, en fait. Et du coup, face à ce putain d'ordinateur, tu peux rien faire. Alors, du coup, tu cliques sur le bouton pour avoir de l'aide. On te dit que le champ est obligatoire et qu'il faut choisir ou bien bleu ou bien rouge. Tu fais, OK, je suis pas plus avancé. Du coup, tu essayes le chatbot qui te propose que le champ est obligatoire et qu'il faut remplir avec ou bien bleu ou bien rouge. Ok, ça sert à rien. Ensuite, tu réponds au questionnaire de satisfaction sur l'usage du chatbot pour dire que c'est de la merde. Puis, tu essayes de téléphoner à l'administration, tu trouves pas de numéro de téléphone, tu te bats, tu finis au bout de moultes emmerdements par te rendre dans un guichet où tu vas croiser un humain qui est tout aussi intelligent que la fois d'avant. Il voit bien que t'es vert, sauf qu'il a le même logiciel que toi. Et il peut plus laisser une note. Qu'est-ce que tu veux agrafer une note sur l'écran? Enfin, il peut plus rien faire. Le plus souvent, il peut rien faire. Donc ça, c'est ce que je résume en l'informatique est fatale. Quand un ordinateur applique un modèle, il n'y a plus de négociation possible. Et c'est très particulier. Tu peux tout négocier dans la vie, sauf avec un ordinateur. Tant que tu es dans une relation d'humain à humain, la définition du réel est négociable. Quand tu es dans une relation d'humain à machine, il n'y a plus de négociation du réel. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est par exemple les histoires de schémas de codage de caractères. Quand on a négocié la norme ISO 8859, qui définit les codages de caractères, le représentant de la France était pas là ou pas assez réveillé à certaines réunions. Et il a oublié deux caractères importants, qui sont le Y tréma majuscule et le E dans l'O majuscule. Et du coup, il a fallu modifier la norme plusieurs années plus tard. On a créé une 15e page à la norme 8859 pour inclure ces deux caractères-là. Mais du coup, si t'as pas le Y tréma majuscule, tu peux pas faire le panneau de signalisation qui dit L'Haÿ-les-Roses. Parce que la ville de L'Haÿ-les-Roses, il y a un Y tréma dans le nom et on écrit les noms des villes tout en capitale. Et là, tu as encore cette idée de l'ordinateur est fatal. Si le caractère n'est pas codé, tu peux pas écrire le nom. Et du coup, on fait quoi? On change la réalité. Et tu vois, si l'ordinateur, il a prévu que tu puisses faire 1m70 ou 1m80, si tu fais 1m75, on fait quoi? On en coupe un bout pour que ça rentre dans la case. C'est ça, l'ordinateur est fatal. Tu peux plus négocier. Ça, c'est le premier morceau. Tu retrouves ça sous plein de formes. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est Cédric O, honorable ministre, qui a la tristesse d'avoir un nom en une seule lettre et des milliers de formulaires informatiques qui expliquent que pour saisir un nom, il faut rentrer au moins deux lettres. Et du coup, il faut quoi? Il change de nom. Il va s'appeler OAUX pour plaire à l'ordinateur. C'est ça, l'ordinateur est fatal. Plus tu informatises le monde, plus tu rends la négociation impossible. C'est plus une négociation sociale d'être humain à être humain, c'est une non-négociation avec une machine. Le deuxième morceau à comprendre, je le résume souvent en « tout fichier est une maltraitance » ou, pour le dire de manière plus réaliste, « tout fichier est une maltraitance potentielle ». En fait, quand tu mets des gens dans des fichiers, quand tu fais des fiches sur les gens, tu cesses d'avoir une relation d'humain à humain, tu te mets à avoir une relation d'humain à objet. Ça commence par des choses extrêmement anodines, je sais pas, t'organises un mariage, une bar mitzvah, une grosse teuf, il faut inviter plein de monde, tu vas faire un plan de table. Tu veux éviter que ta copine trans soit à côté du tonton raciste parce que tu sens bien que ça va clasher toute la soirée.
Ça peut être marrant.
Ouais, non, en fait. Très vite, c'est lourd pour tout le monde. Et ton but, c'est pas que ce soit lourd pour tout le monde. Et du coup, bah, tu fais des petits papiers avec les noms des gens et puis tu fais ton plan de table, etc.
Est-ce que t'as le droit de faire des fichiers avec trans?
C'est pas le sujet. Je n'en suis pas encore là. Quand tu fais ça, en fait... Quand tu fais ton plan de table en déplaçant les petits papiers, tu manipules tes papiers comme des choses. Jamais tu déplacerais tes potes comme ça. Jamais tu déplacerais tes potes comme des pions sur un échiquier. Au moins tu leur demanderais, tu leur parlerais, tu leur dirais « s'il te plaît, est-ce que tu peux ?» Tu vois, t'aurais une forme de négociation humaine de la chose et tu les traiterais pas comme des objets. En fait, quand tu crées un fichier... tu crées la possibilité d'une maltraitance puisque tu fais ce qu'on appelle de la réification. C'est-à-dire que tu transformes un sujet humain en un objet sur lequel tu vas appliquer un traitement et ce traitement sera inhumain. Alors les exemples sont innombrables.
Est-ce que on peut appliquer ça sur les fichiers S?
On peut appliquer ça à tous les fichiers, et j'ai bien dit fichiers, pas nécessairement informatiques. Le fichier des Juifs de la préfecture de police de Paris dans les années 40... C'était un fichier avec des belles fiches en Bristol dans un classeur en bois. Il n'y avait pas d'ordinateur dans la bataille et ça servait manifestement à maltraiter les gens. Le fait de mettre les gens en fiches et ensuite de les manipuler comme des objets, de les trier, de les classer, de calculer dessus, tout ça, c'est de la réification. Tu te mets à manipuler des choses et plus à manipuler des gens. Quand un médecin, il ne voit que le dossier et il ne voit pas le patient, il ne peut pas être en empathie, il ne peut pas comprendre ce que dit le patient, il peut juste décider sur un graphique, une statistique, un chiffre. Il n'y a plus de relation humaine. Et en fait, le fait de remplacer les gens par une fiche, c'est le début d'une maltraitance ou d'une maltraitance potentielle. Et ces deux éléments-là sont rigoureusement indispensables à comprendre pour comprendre pourquoi le sujet des données personnelles n'est pas dans le droit du business. C'est pas du droit du commerce, c'est pas du droit de la propriété intellectuelle. Tu ne peux pas vendre tes données personnelles pour la même raison que tu ne peux pas vendre un rein. C'est pas possible. Parce que tu es dans du droit des personnes.
En France ou en Europe, mais
en France ou en Europe. Aux États-Unis, les données personnelles sont plus considérées comme une propriété privée. Au sens, ta bagnole ou ton blouson, un truc que tu peux vendre, que tu peux donner. En Europe, les données personnelles sont considérées comme une de tes propriétés. Au sens, la couleur de tes yeux. Tu peux pas vendre la couleur de tes yeux, ça n'a pas de sens. Au sens, ton prénom, ton âge, tes goûts, le fait que tu aimes ou pas les fraises, les mangues ou la tarte à la rhubarbe, ce sont des propriétés de toi, pas des choses que tu possèdes, des choses qui te définissent. Et en fait, tes données personnelles te définissent. Et tes données personnelles, c'est toi. Donc, toute cette longue introduction pour expliquer...
Compris, Marc.
Pour l'instant, j'arrive à suivre, mais parce qu'il est très bon, il est très pédagogique.
Ça, on sait tous qu'il est très bon.
Et là, tu l'as coupé alors qu'il sortait du tunnel.
Et ouais, mais c'est pour ça qu'il m'a coupé aussi.
Il est malin.
Donc en fait, c'est pour ça que le droit des données personnelles en Europe s'inscrit dans du droit de la personne. Il ne s'inscrit pas dans du droit du business.
Les droits de la personnalité.
C'est, oui, les droits de la personne au sens de la personne humaine. C'est à côté des droits de l'homme, c'est à côté du droit à l'intégrité physique. C'est dans le même registre de choses. C'est pour ça, par exemple, que le RGPD, le Règlement général sur la protection des données en Europe, il définit la protection des données personnelles des individus. Le secret des affaires, le secret des procédés, c'est pas son problème, c'est pas son sujet. Aux États-Unis, tu feras à peine la différence entre les données personnelles et les données secrètes d'une entreprise. Tout ça sont des données qu'il faut sécuriser, qui sont sujettes éventuellement à monétisation, qui ont une valeur, et donc le fait d'y porter atteinte correspond à un préjudice économique. En droit européen, c'est pas le cas. Le fait d'y porter atteinte n'est pas défini par un préjudice économique. On n'a pas besoin de démontrer que ça t'a fait perdre du pognon pour qu'il y ait une sanction. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Là-dessus, je peux enfin répondre à ta question. Qui était, en gros, souveraineté, sur la data.
Et l'État, qu'est-ce que fait l'État?
Eh bien, souveraineté sur la data, la question est de savoir, est-ce que le droit qui s'applique sur tes données, c'est le droit européen ou c'est le droit américain? Sur ton compte Facebook, sur toutes tes données de trafic sur Google, sur toutes tes stats d'utilisation de YouPorn, quel est le droit qui s'applique? Est-ce que c'est le droit,
J'aimecuisiner.com.
voilà, est-ce que c'est le droit européen qui s'applique et
Décalé en
donc,
cuir aussi, ça marche?
c'est pareil. Est-ce que c'est le droit européen qui s'applique, auquel cas tes données sont protégées parce que données personnelles, etc. Et le RGPD est extrêmement strict par rapport au droit américain ou chinois ou de beaucoup d'autres pays. Ou bien est-ce qu'on considère que c'est le droit américain qui s'applique? Et dans ce cas-là, tes données ne sont pas du tout protégées de la même façon et peuvent faire l'objet de monétisation, de commerce, etc. Ce que nous a dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que le droit américain n'est pas compatible avec le droit européen et ne peut pas être rendu compatible. Le droit américain prévoit des cas pour le gouvernement pour accéder aux données sans protection particulière et avec pas assez d'encadrement. Et donc, les services américains, FBI, NSA, CIA, tout ça, tous ces gens-là, peuvent accéder aux données personnelles des gens et entre autres des Européens, sans contrôle suffisant et donc d'une manière qui n'est pas conforme au droit européen. Donc là, quand on parle de souveraineté sur les data, et où on va sur des sujets comme cloud souverain, etc., l'axe central, c'est est-ce que le droit qui s'applique, c'est le droit européen, ou est-ce que c'est le droit américain? Si c'est le droit américain qui s'applique, le droit européen est violé.